Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel au micro Yves Bastide pour l'émission Histoire d'en savoir plus. Qui êtes-vous, Monsieur Poutine? J'avoue que c'est la question que je me pose souvent lorsque j'entends des reportages ou que je vois des reportages à la télévision, quand j'entends toutes les âneries qui peuvent être débitées par les journalistes sur Vladimir Poutine. Alors les clichés sont surabondants, les excès, monnaie courante. Je vais prendre un simple exemple. Il y a quelques mois, on annonce un grand renfort de publicité sur la, ça doit être sur la première chaîne, la diffusion d'une interview en direct de Vladimir Poutine. Deux intervieweurs, un journaliste connu de la première chaîne, un chroniqueur non moins connu et depuis plus longtemps d'Europe numéro 1, et les voilà donc tous les deux face ou à côté de Vladimir Poutine. Je me suis demandé un moment si les deux journalistes s'étaient mis d'accord pour savoir lequel poserait la question la plus inutile. Qu'est-ce que je considère comme question inutile? Des questions dont on connaît évidemment la réponse, surtout dans un cadre officiel. Et alors là, les deux journalistes s'en sont donnés à cœur joie. Ils ont posé leurs questions. Vladimir Poutine a donné la réponse que tout le monde attendait, sans surprise. Mais cette réponse n'était pas du gré des deux journalistes qui voulaient, eux, entendre la réponse qu'ils avaient souhaité entendre. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils reposaient la même question. Vladimir Poutine répondait la même chose. Ça dure un certain temps jusqu'à ce que l'interview s'arrête d'elle-même, faute d'alimentation. Il y a eu à peu près la même chose lors des élections américaines à la présidence des États-Unis. On a dit que Vladimir Poutine avait favorisé, avait organisé, avait encouragé presque l'élection de Donald Trump, comme si les Américains avaient besoin de Vladimir Poutine pour aller mettre leur bulletin dans l'urne. On a dit aussi récemment, et pour la France, quoique plus discrètement, que Vladimir Poutine était un soutien de François Fillon, que, alors d'ici avoir la main ou l'action de Vladimir Poutine derrière l'élection de François Fillon à la primaire pour les élections présidentielles, il n'y avait qu'un pas. Je passe aussi sur les commentaires stupides de certaines personnes qui s'imaginent pouvoir penser à notre place et qui se font un plaisir régulièrement de nous dire comment on doit penser puisque eux pensent de la sorte. Pour n'en citer que deux, Bernard-Henri Lévy est pas mal dans le style. Daniel Cohn-Bendit le suit de près. Alors, Poutine, pour eux, c'est Hitler. Ah, Hitler, parfois, il est bien pratique. Hein. Tout ce qui ne va pas, c'est Hitler. Alors, Poutine, c'est devenu Hitler. On a l'impression, par moments, de retomber dans une époque ancienne lorsque on vous montrait des affiches avec un bolchevique, le couteau entre les dents, prêt à dévorer l'Europe, l'Asie et l'Océanie. Alors, on peut se demander pourquoi d'autres dictateurs, si on admet que Vladimir Poutine est un dictateur, d'autres dictateurs tout aussi détestables, ne font l'objet de qu'un battage médiatique. Ben, peut-être parce que parfois il y a des intérêts économiques. Alors, à côté de ça, il ne faut quand même pas oublier que, dictature pour dictature, restant en Russie, Staline quand même avait une envergure dans la dictature d'une autre dimension. Mais, voilà, Staline avait été l'allié des Anglais, l'allié des Américains, il avait accepté les Français dans le quatuor des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, Staline, bon, on n'y touchait pas trop. Les dictatures en Chine, aucun mot. Mais non, Poutine reste privilégié dans ce sens. Et en général, quand on parle de Vladimir Poutine, on ressort toutes les âneries qui ont pu courir au fil des siècles à propos de la Russie. C'est un lieu commun, presque. La Russie a besoin d'un dictateur et les masses russes sont profondément soumises. C'est tellement absurde, ça ne vaut même pas la peine de le réfuter, mais on l'entend régulièrement. Alors, qui est donc vraiment Vladimir Poutine? Pour bien comprendre le personnage, la personne, il ne faut pas oublier qu'au XXe siècle, la Russie a vécu deux révolutions qui ont complètement bouleversé, détruit les piliers de la société. Et deux révolutions en l'espace de 80 ans, ça fait beaucoup. En France, quand même, on a eu, bon, évidemment, on a eu la révolution de 1789. Il a fallu attendre presque un siècle pour que les choses redeviennent républicaine, si j'ose dire. Il a fallu quand même deux empires, trois règnes, avant de revenir à la République. La première révolution, c'est en 1917-18, lorsque le régime soviétique s'est mis en place. Tout a été saccagé, balayé. La religion a été déclaré ennemi du peuple. Les propriétés, sont devenues celles de l'État. Le citoyen n'avait pratiquement rien qui lui appartienne en propre, sauf pour les paysans. Un petit lopin de terre, ce petit lopin de terre qui se trouvait à côté, autour de leur maison. Tout le reste appartenait au kolkhoz, mais il y avait ce semblant de propriété personnelle. Et voilà que, en 1990, du jour au lendemain, en quelques heures, le régime s'effondre complètement. Alors là, une fois de plus, on peut remarquer que les médias français, entre autres, ils ne sont pas les seuls, que les médias français n'ont rien vu venir. Rappelez-vous, en 1985, arrive au pouvoir Mikhail Gorbatchev. Ah, Gorbatchev, la perestroïka, la glasnost. Ah, il était tellement fréquentable, ce monsieur Gorbatchev. D'ailleurs, il avait une épouse qui le suivait partout et qui, à Paris, n'hésitait pas à aller chez les grands couturiers. Les médias français, entre autres, ont oublié une chose. C'est qu'en Russie, même, en URSS, pardon, Gorbatchev était, dans l'ensemble, franchement, détesté. Et son épouse, Raïssa, était peut-être encore plus détestée que lui. Ce qui explique que lorsqu'il a renoncé à ses pouvoirs en 1990, les gens ne se soient pas forcément senti concerné. Mais lorsque le régime soviétique s'est effondré, rien n'était prévu pour le remplacer. Brusquement, prenons l'exemple des terres. Toutes les terres qui appartenaient au kolkhoz, donc à l'État, n'appartenaient plus à personne. Ça veut dire que les gens qui voulaient acquérir de la terre, les paysans, mais il fallait qu'ils la rachètent. À qui? Et combien? D'autant plus que, quand on voit qui a remplacé Mikhail Gorbatchev, on reste un peu perplexe. Boris Yeltsin, dont on a vanté le courage, en fait, de courage, Il est monté sur un char lors d'une tentative de putsch, alors qu'il savait qu'il ne risquait rien. En plus, Yeltsin avait quand même un énorme problème. C'était un alcoolique absolument incontrôlable. Donc, Yeltsin n'a rien fait. Il a essayé d'évoluer entre deux souleries plus ou moins effrénées. Et c'est dans cette Russie-là, complètement ravagée, complètement détruite, où les gens ne touchaient pratiquement plus de pension, où les mendiants se multipliaient dans les grandes villes, où à la campagne, on arrivait à survivre parce qu'on avait encore la ressource de faire pousser de quoi subsister. Il ne faut pas oublier que c'est dans cette condition-là que Vladimir Poutine arrive au pouvoir en 1999. Et il arrive au pouvoir d'abord lorsque Yeltsin démissionne, ou lorsque, je pense plutôt, lorsqu'on le fait démissionner, parce qu'il n'était absolument plus gérable. Et ce n'est qu'en 2000 que Vladimir Poutine devient vraiment le président élu de la Fédération de Russie. Mais il arrive dans un pays où tout est à réinventer. Surtout que la question qui se pose et qui continue à se poser et qui va sûrement créer des problèmes dans l'avenir, mais là, seul l'avenir nous le dira, il y a dans les ex-républiques de l'URSS toute une population russe, installée là parfois depuis plusieurs générations, mais profondément russe. Or, cette population russe se trouve dans un environnement qui n'est plus le sien. Avant, elle était en Union soviétique, la question ne se posait pas. Là, et c'est le grand problème, côté européen, on va dire, qui se pose en Ukraine, mais aussi en Moldavie, en Biélorussie, dans les ex-territoires de la mer Baltique, les ex-républiques soviétiques de la mer Baltique, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, que vont devenir ces Russes d'origine qui se sentent russes dans une terre qui n'est plus considérée comme russe? Alors bien sûr, Poutine, quand il arrive au pouvoir, il le dit lui-même, il n'a pas du tout envie de ressusciter l'URSS. Il déclare même que celui qui aurait envie de ressusciter l'URSS n'a pas de cerveau, mais celui qui dirait que l'URSS n'a apporté que du négatif n'a pas de cœur. Je vous propose une première pause musicale. On retrouve donc Vladimir Poutine en 2000 à la tête d'un pays complètement dévasté. Alors, qui est Vladimir Poutine? Il est né le 7 octobre 1952 à Leningrad, qui depuis est redevenu Saint-Pétersbourg, dans une famille ouvrière de 3 enfants. Et on sait que son grand-père était le cuisinier de Staline. Mais bon, ça, c'est pas forcément un titre de gloire. Et on raconte que, très jeune, n'étant pas un élève particulièrement brillant, et après avoir vu un film, il va se proposer ses services au KGB. Le KGB, ce sont les services secrets soviétiques. Et on lui dit qu'il est encore trop jeune, mais finalement, il finit par y entrer et il devient un membre du KGB. Et on l'envoie en République démocratique allemande. Il n'a pas un rôle très important, mais par contre, avant de l'envoyer là-bas, on lui fait comprendre qu'il faut qu'il se marie. Pourquoi se contenir à ce qu'il se marie? Tout simplement pour éviter, d'une part, sur place, à Dresde, d'être sollicité par des tentations, sexuelles, affectives, aussi bien côté féminin que côté masculin. Il épouse donc une hôtesse de l'air, ils auront 2 filles. Il rentre ensuite à Saint-Pétersbourg et il devient un des adjoints du maire de Saint-Pétersbourg, Anatoli Sobchak, jusqu'à ce qu'il soit nommé à la tête de l'organisme qui a remplacé le KGB, le FSB, et qu'il rejoigne Moscou et, à l'époque, Boris Yeltsin. Alors, on sait qu'il aime le judo qui unit en soi des techniques de combat, une philosophie originale et profonde qui éduque les meilleures qualités humaines. Ça, ce sont les paroles de Vladimir Poutine. C'est une philosophie qui préfère l'évolution à la révolution. On sait aussi que c'est un joueur d'échecs acharné et apparemment assez doué. On saura très peu de choses par la suite sur sa vie privée. Les deux époux ont reconnu, bien après leur divorce, qu'ils avaient divorcé. On lui prête des relations, notamment avec une sportive de niveau olympique, qui sera par la suite députée à la Douma. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il va réagir face à la situation dans un pays qui ne ressemble plus à ce qu'il a connu. Alors, il va faire appel à des notions, disons, qui peuvent surprendre en France. D'abord, il va essayer de se rapprocher du peuple. Il fait appel au sentiment patriotique, toujours très fort chez les Russes. Et surtout, il revient en politique intérieure à une certaine tradition en évoluant du côté du patriarcat de Moscou, du côté de l'orthodoxie. Bien sûr, il va se heurter dans son pays même. Il va se heurter au terrorisme islamiste. Je vais évoquer simplement un attentat dans un cinéma de Moscou. Les attentats dans une école. Et là, il ne va pas faire de demi-mesure. Il déclarera lui-même, dans un langage qui n'a rien de diplomatique, alors que quand il veut, il peut être très diplomate, donc dans un langage qui n'a rien de diplomatique, allant jusqu'à déclarer qu'on poursuivrait les terroristes jusque dans les chiottes. Cris d'effroi, hurlements dans une partie de l'Europe. Alors, ne sachant trop comment s'opposer à cette politique instaurée par Vladimir Poutine, l'Europe ne trouve rien de mieux à faire que de déclarer l'embargo des marchandises russes à destination de la France, de l'Allemagne ou des autres pays. Sanctions inverses, évidemment, les Russes mettent l'embargo sur les produits en provenance, on va prendre l'exemple de la France. Résultat, le résultat ne se fait pas attendre. Ce sont, par exemple, 250 000 tonnes de fromage français qui sont refoulées à la frontière. Et les Russes en profitent pour fabriquer eux-mêmes des fromages à la mode française. Certains fromagers français, d'ailleurs, ont choisi d'aller s'installer en Russie parce qu'ils n'arrivaient plus à vivre en France. Je regardais récemment un dictionnaire russe des fromages disponibles. Oh, ils ont repris à la russe les noms français, mais ce sont des fromages qui sont fabriqués en Russie. Pareil pour les viandes. Poutine aussi va répéter à plusieurs reprises que c'est à la campagne que se perçoit l'identité d'une nation. Alors la question qui se pose, et là je vais évoquer une phrase très connue du général de Gaulle, lorsqu'il parlait de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Le problème, c'est que de l'autre côté de l'Oural, c'est l'Asie. Et l'Europe, fermant ses portes à la Russie, que fait-elle? Eh bien, elle se tourne vers l'Asie, et notamment vers la Chine. Donc, encore une fois, on a l'impression, en écoutant ce qui se passe au niveau des relations internationales en France, on a l'impression que les personnes chargées de la diplomatie ou les personnes chargées de l'économie n'ont rien compris à ce qui se passait en Russie. Alors, bien sûr, je n'irai pas jusqu'à dire que Vladimir Poutine est un modèle de démocratie. Je souhaiterais simplement que lorsqu'on parle de la Russie, lorsqu'on parle de Vladimir Poutine, on le fasse en connaissance de cause. Je vais prendre un autre exemple très simple. On a demandé une fois à Poutine quels étaient les dirigeants de la Russie pour qui il avait de l'admiration. Et il a eu cette réponse que je trouve particulièrement significative. Il a dit « À une époque, dans mon bureau, j'avais un portrait de Pierre Ier. Pierre Ier, Pierre le Grand, celui qui a bouleversé complètement le royaume russe. Il a ajouté, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que Pierre Ier a fait en Russie, beaucoup moins pour ce qu'il a emprunté à l'Europe. Et symboliquement, je trouve que cela éclaire bien les attitudes parfois surprenantes pour nous de Vladimir Poutine. Il a également senti qu'il fallait, dans ce pays complètement dévasté, il fallait ce qu'il a appelé une dictature de la loi. C'est-à-dire qu'il fallait un pouvoir vertical qui apporte la stabilité pour la puissance russe. En l'an 2000, il explique ce qu'il entend par un État fort. Un État fort ne comprend pas pour autant un élément de dictature. Il faut simplement restaurer ce qui a été ravagé. Les gens veulent la stabilité. Ils ne veulent pas l'immobilité et la stagnation, mais veulent précisément la stabilité dans le sens positif de cette notion.
Ils veulent voir la lumière au bout du tunnel, ils veulent vivre mieux, ils veulent que leurs enfants aient la perspective de mieux vivre. Et en écoutant ça, on se pose moins de questions sur ce qui a été souligné à maintes reprises, la popularité de Vladimir Poutine dans son propre pays. Une popularité que, à ma connaissance, personne ne remet vraiment en cause. Mais il faut voir, les gens avaient pris l'habitude, pendant 80 ans, de vivre sous un régime qui leur assurait, tant bien que mal, de quoi vivre. Brusquement, ils se sont retrouvés sans rien, sans ressources, sans perspectives, sans avenir. Et là, ils découvrent un homme qui leur propose à la fois la stabilité et la sécurité. Alors, même si on peut, on doit même sans doute être choqué par des réactions du chef du Kremlin, il ne faut jamais perdre de vue ce qu'il y a derrière. Et ce n'est pas pour rien qu'il a renoué avec une notion perdue de vue depuis des siècles, la notion de Sainte Russie, la renaissance des traditions, la renaissance des bases morales et éthiques de notre culture, au fond desquelles reposent les valeurs chrétiennes. Ces paroles sont de Vladimir Poutine. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de Vladimir Poutine, essayez d'avoir en mémoire toute cette histoire d'un siècle, le XXe, qui a été pour la Russie un siècle vraiment épouvantable, une première révolution, la Deuxième Guerre mondiale, une deuxième révolution. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous propose de nous séparer avec l'hymne de la Russie.